studio.
Hors des murs.
Le studio, il est où?
Hors des murs.
Studio volant.
Qui vole un studio?
Vole un micro.
Radio Panique.
Studio hors des murs.
Studio volant.
Radio Panique.
Panique. Hors des murs.
Radio Panique sort des murs.
Nous sommes maintenant en direct sur Radio Panique et nous allons céder la place à Gaspard et Amandine.
En het is heel goed wat jullie doen, het dansen en zo. Blijf op je plaats, want uit vorige ervaringen weten we van dansen, komt er dan politie en zo. Dus gewoon zo, het is heel goed. Het is heel goed wat jullie doen. Blijf dat gewoon verder doen. Oké, Amandine en Gaspard, en we gaan live naar de radio.
Juste une petite précision, nos ateliers créatifs commenceront à 18h35. Vous êtes invités à rejoindre Léole et Clara à 18h35.
18h35.
Eh bien, rebonjour à tous ceux qui nous écoutent en direct sur Radio Panique. Donc là, présentement, je suis sur la tribune avec mon compatriote Gaspard.
Bonjour.
Et on est toujours accompagné par plein de gens qui sont présents avec nous sur cette place de la Monnaie.
Et qui peuvent faire plein de bruit.
Alors, on va déjà commencer par se présenter un petit peu. Gaspard, est-ce que tu veux dire un peu qui on est?
Du coup, Amandine et moi, on est deux membres du collectif Besette la Monnaie Occupée. Qui est un collectif qui s'est formé il y a à peu près un mois maintenant, qui regroupait au départ une vingtaine de personnes qui viennent des milieux confondus, travailleurs et étudiants des secteurs culturels.
Et des travailleurs et des étudiants et étudiantes.
Étudiantes, bien sûr. Et en fait, on s'est rencontrés plus ou moins au TN et à travers nos relations personnelles. Et on a décidé d'occuper la Monnaie pour y instaurer des tribunes publiques quotidiennes qui ont duré jusqu'ici 3 semaines.
Voilà, donc chaque jour, en fait, de 17 à 19 heures, on se retrouve sur cette place publique fédérale de la Monnaie pour accueillir des multiples personnes qui viennent se représenter elles-mêmes ou des secteurs entiers. Et qui ont été invisibilisés et ou précarisés par les choix politiques liés à la gestion de la crise. Et donc, toutes ces personnes viennent prendre la parole de façon politique et artistique. Viennent porter leur parole publiquement sur une place publique.
Très bien, tout est public. Du coup, là, en même temps, il y a les ateliers qui commencent à se mettre en place. Donc aussi, on invite tous les gens du public, puisqu'on est en même temps à la radio et en même temps avec les gens de la tribune qui sont sur la place de la Monnaie. On vous invite aussi à aller participer aux ateliers qui sont, en fait, c'est deux ateliers différents. Il y en a un qui fait du cyanotype, je peux avoir mes petites notes parce que je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est une méthode d'impression sur du papier photosensible sur lesquels on va noter des phrases ou des mots revendicatifs et qui vont donner des objets très jolis. Et en même temps, il y a un autre atelier de fabrication d'oiseaux avions en papier qui seront utilisés pour le 1er mai et tout ce qui va se passer le 1er mai. Mais ça, on n'en dit pas plus parce que c'est une surprise.
Exactement. Donc c'est un atelier en fait qui veut travailler sur toutes les questions liées à l'autonomisation par rapport à la lutte. Et donc c'est un procédé créatif et dans l'idée de peut-être créer une sorte de journal, gazette tous ensemble, puisque le thème aujourd'hui, ce sont les médias et notamment les médias indépendants.
Alors pour parler d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'intervenants, intervenantes qui sont venus. Et il y avait un petit kiosque à côté de la scène avec plusieurs journaux et revues, magazines à disposition. Tout était très intéressant, bien sûr. Et c'était chouette d'entendre pour une fois la voix de tous ces médias qui sont du coup pas très visibles de par la place que prennent les autres très grands médias.
Exactement. Alors, par rapport à comment est-ce qu'on s'est retrouvés ici, Eh bien, peut-être on peut parler du fait que, en fait, c'était pas seulement du coup pour ouvrir une tribune publique. Donc forcément, ça, c'était vraiment un but en soi, mais il y avait aussi le but, évidemment, d'interpeller le gouvernement qui est responsable des choix qui ont été faits toute cette dernière année et même avant, sur ses décisions, sur sa gestion de la crise et sur les responsabilités qui lui incombent en termes de dommages collatéraux liés aux choix politiques. Et est-ce que tu veux raconter, Gaspard, qui est-ce qu'on a réussi à atteindre et comment
Ben oui, du coup, il y avait cette idée, d'interpeller le gouvernement. On racontera comment ça s'est passé après cette chose-là. Mais pour accéder à la monnaie et pour y prendre place, ça a été toute une procédure très longue parce que nous, on était assez résolus à occuper ce théâtre. Mais il a fallu prendre contact avec la direction et il a fallu également fédérer autour de nous beaucoup de soutiens qui ont appuyé en fait, notre démarche. Et sans eux, évidemment, ça n'aurait pas été possible puisqu'ils ont fait poids sur la direction pour qu'on puisse entrer dans la monnaie et l'occuper pendant 2 semaines.
Donc parmi ces soutiens, il y avait des syndicats, il y avait des fédérations et des associations donc, qui nous ont permis en fait, d'avoir cette négociation très, très musclée avec la direction du Théâtre Royal de la Monnaie.
Oui, parce qu'il faut bien dire qu'ils étaient totalement contraires à l'idée qu'on vienne et qu'en fait, c'est le dernier jour avant qu'on ait prévu d'y aller, où tout était prévu, la première tribune, etc. Et c'est le jour avant, simplement, qu'ils ont accepté au vu de la pression qu'on leur mettait. Et donc, on est entré le jour même d'organisation de la première tribune, le samedi, je ne sais plus la date. Voilà, on est entré à l'intérieur du bâtiment. On a vécu là et dormi là pendant 2 semaines. Et voilà, pendant cette période-là, quotidiennement, comme on l'a dit déjà, il y a eu cette tribune. Et quotidiennement, il y a eu aussi des appels lancés au gouvernement. On a appelé vraiment au téléphone le cabinet du Premier ministre tous les jours pour avoir un rendez-vous avec lui. Et tous les jours, il y avait une chaise symbolique qui était mise sur la scène avec le nom d'Alexander de Croo, qui était invité à venir prendre place ici et venir dialoguer avec nous. Évidemment, il va s'en dire qu'il n'est pas venu. Il n'est pas venu du tout. Mais donc, à l'issue de ces 2 semaines de tribune et à l'issue, disons, de l'accord qu'on avait avec la monnaie de rester jusqu'au 18, je pense que c'était le 18.
Exactement, c'était dimanche 18 avril, en fait, l'accord qu'on avait réussi à négocier en fait prenait fin et donc on était prié de partir et de mettre fin non seulement à l'occupation à l'intérieur de la monnaie mais aussi à nos activités qui se passaient sur la place. Et puis nous, comme on avait vu selon le dernier Codeco et selon la relation zéro qu'on avait avec le gouvernement, que nos revendications et que nos priorités n'avaient pas été entendues et prise en compte dans les choix politiques, on a décidé en fait de continuer.
Peut-être on peut rappeler nos revendications pour que ce soit clair pour tout le monde.
Alors les revendications, bah, peut-être qu'on peut en parler une fois qu'on parlera du rendez-vous avec Sophie Wilmès, puisque finalement il a quand même eu lieu. Mais en tout cas, ce qui s'est passé dimanche 18 avril, c'est que donc comme on n'avait pas le droit de rester, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a fait une action de désobéissance civile, pacifique et artistique. Donc il y a 10 personnes qui sont montées à l'étage de la monnaie, et puis là il y a 3 personnes habillées en oiseaux qui sont sorties, qui sont apparues en fait aux fenêtres et qui ont déroulé des banderoles sur lesquelles il était écrit: libre, les oiseaux volent, sinon ils meurent. Donc ça, c'était pour la partie poétique. Et puis, donc, il y avait tout ce rapport aux oiseaux noirs qui s'organisent en bande dans nos villes et qui survivent envers et contre tout. Et qui, l'oiseau aussi symbole de liberté, qui a un rapport au vide. Et puis, il y avait aussi le côté un peu de mise en danger, parce que finalement, les 3 personnes qui étaient habillées en oiseaux au bord de la fenêtre étaient bien sûr encordés, mais étaient quand même au-dessus du vide. Donc il y avait un peu ce rapport, en fait, une certaine urgence, et puis la sensation d'un vide qui se dérobe sous nos pieds, et l'envie d'un envol. Et, Et pendant ce temps, en fait, sur la tribune, il y avait une des membres du collectif, Astrid, qui était en train de déclamer en fait le texte qui expliquait pourquoi est-ce qu'on avait l'intention en fait de continuer nos actions, à savoir rester à l'intérieur de la monnaie, ce qui finalement n'a pas été possible, mais surtout rester sur cette place publique et fédérer en fait tous ces précarisés pendant 2 heures en créant cet espace d'écoute qui nous semble absolument nécessaire et urgent.
Oui, et du coup, ça s'est, bien passé et en même temps pas très bien passé, parce que évidemment, du coup, la police a été appelée. Nous, on était à l'intérieur. Toute la foule s'était amassée autour du bâtiment pour protéger les entrées et, disons, retarder l'arrivée de la police. Mais tout ça très pacifiquement, évidemment. Et bon, la police a quand même réussi à rentrer. Nous avons été arrêtés. S'en est suivi une négociation à l'entrée des artistes de la monnaie avec le directeur des ressources humaines, M. Eddy Ballot, qui est venu parler avec 3 représentants de notre collectif pour entamer des négociations qui ont duré 1h30. C'était très long, avec toute la foule autour et tous les policiers. C'était un moment très intense et bon, il s'est passé plein de choses, mais c'était aussi assez beau de voir que tout le monde était là, soutenant et très calme. C'était très, très joyeux et très calme, et c'était un chouette moment.
Oui, il y avait vraiment ce cordon de policiers qui séparait en fait la foule des personnes qui nous soutenaient et nous aussi, puisque du coup, en fait, les disques ont été arrêtés, on a été remis dans ce bain de personnes. Et donc, il y avait ce cordon de policiers qui séparait donc cette foule assise, pacifique, et qui écoutait l'opéra de Benjamin Britten, donc l'opéra que la monnaie allait enregistrer en streaming en fait le lundi 19 avril. Et pendant ce temps, derrière le cordon de policiers, eh bien, il y avait une délégation de 3 personnes du collectif qui était en train de négocier avec Eddy Ballot pour
à l'issue de ces négociations, du coup, que... Donc, ce qu'on a réussi à négocier finalement avec la direction, c'est de garder la tribune devant la monnaie, donc de ne plus pouvoir occuper à l'intérieur, mais de garder quotidiennement cette tribune de 17 à 19 heures.
On a obtenu un rendez-vous facilité avec les ministres qu'on avait demandé à voir, à savoir M. Vandenbroek, Sophie Wilmès et Alexander De Croo. On attend toujours le rendez-vous avec Alexander De Croo, mais les 2 autres ont bien eu lieu.
Oui, il se trouve que du coup, la semaine passée, on a eu ce rendez-vous avec Sophie Wilmès, où de nouveau, 3 personnes de notre collectif sont allées parler avec elle. Est-ce qu'on peut parler de l'issue de ce rendez-vous parce que c'était pas très concluant non plus, il faut le dire.
Non, en effet, on a vu le lendemain qu'au Code Éco, les mesures étaient restées insuffisantes, que finalement les véritables questions que soulève cette crise n'ont toujours pas été prises en compte par leur gouvernement. Mais en fait, le but, quand on est allé dans le bureau de Madame Wilmès, ce n'était pas d'aller quémander des cacahuètes, c'était vraiment de lui exprimer en fait, en tant que jeune, en tant que précarisé, en tant que citoyen vraiment... soucieux et même inquiet de l'avenir de notre société et des précarités croissantes et du manque de considération envers les minorités et les gens précarisés. En fait, je me suis un peu perdue dans ma pensée, mais ce que je voulais dire, c'était que le plus important pour nous, c'était d'exprimer un vrai fossé idéologique, un vrai désaccord idéologique. Et donc ça a pu être fait. Et puis, à l'issue de ça, en fait, on a aussi pu avancer des revendications très, très concrètes pour le Code Éco du lendemain. Donc, ce qu'on a demandé, c'était notamment la réouverture immédiate de tous les liens porteurs de liens sociaux, de tous les lieux porteurs de liens sociaux, pardon. Donc, englober, évidemment, tous les liens tous les lieux dits culturels, pardon, je confonds maintenant le mot lieu et le mot lien, mais donc tous les lieux culturels qui ne représentent pas seulement les théâtres, mais aussi toutes les petites salles où on fait culture, donc les petites associations, les maisons de quartier, et bien sûr les cinémas, les salles de théâtre, etc. Et donc
et
on
les bars aussi. Les bars et les restaurants aussi, qui sont
évidemment
aussi des lieux de rencontre importants.
Exactement. Donc vraiment tous les lieux en fait, qui fédèrent les gens ensemble et qui permettent de se rencontrer, d'échanger, de discuter. Et en fait, dans cette revendication, on a aussi demandé à ce que des moyens leur soient donnés pour pouvoir rester ouverts dans la situation de crise qu'on connaît. Je veux dire, on nie pas du tout l'existence d'un virus. On imagine bien qu'il faille mettre en place des mesures spécifiques à cette situation. Mais tout ce qu'on demande, en fait, c'est que tous ces lieux puissent rester ouverts et qu'on leur donne les moyens de mettre en place ces mesures. Et puis, au-delà de ça, on a aussi demandé un refinancement massif du secteur culturel. Et on a aussi demandé, on a aussi rappelé qu'il fallait absolument que soient entendues toutes les autres minorités qui, elles aussi, ont été oubliées vraiment pendant cette crise. Donc là, on a une liste immense, mais pour en citer juste quelques-uns, de façon pas du tout exhaustive, il y a l'Union des sans-papiers pour la régularisation, il y a les travailleuses du sexe, il y a tout le secteur de l'ORECA, il y a les secteurs du care, toutes les femmes en première ligne, toutes les gens de la santé en lutte.
Les gens de la communauté LGBT queer plus, les gens de... énormément de gens,
voilà,
en vérité.
Voilà, cette liste est non exhaustive.
Ouais. Tous les milieux étudiants, les fédérations étudiantes. En fait, il y a tellement de gens et qui sont venus, du coup, ça me permet d'embrayer sur ce qui s'est passé pendant toutes ces semaines. Un mois, en fait, de tribune, et, où chaque jour, c'était plus ou moins avec une thématique, même si, en fait, c'était assez variable. Les gens sont venus prendre la parole pour exprimer toute leur colère, leur désarroi, leur incompréhension et leur ras-le-bol vraiment de cette situation. Mais de la situation en général, il ne s'agit pas non plus, je pense, de cette situation particulière, parce qu'évidemment que c'est insupportable, mais en réalité, ça ne fait que pointer du doigt d'autres problèmes structurels qui étaient présents bien avant l'arrivée de cette crise sanitaire.
Bah en fait, on déplace le curseur du ras-le-bol de la situation actuelle sur le ras-le-bol de la gestion de la situation actuelle. Parce qu'on part du principe que cette gestion est catastrophique, qu'elle est idéologique et qu'il y a tout à fait moyen de faire autrement. Donc ça, c'est vraiment, et c'est tout à fait ce qu'on essaye déjà de mettre en place à la Monnaie tous les soirs, dans cette convergence. Parce que les gens aussi sont venus en parlant depuis leur place particulière, mais ils sont venus vraiment dans un souci de convergence, parce qu'en fait, on s'est tous rendu compte que, aussi différents qu'on est, et on ne peut pas porter les revendications les uns des autres, mais simplement qu'on peut se soutenir dans le fait que voilà, on n'a pas été écouté et que maintenant on veut juste un immense changement par rapport à ça.
Voilà, et du coup maintenant on va passer à des petits moments de, disons, de questions avec des gens du public, des gens du collectif qui vont venir là au micro et raconter quelques petites histoires. Du coup, on invite Véronique, si tu veux venir maintenant.
Véronique, en fait, elle est là quasiment tous les soirs depuis 3 semaines.
Oui, on a désinfecté les micros. Tu peux. Peut-être qu'il faut quand même parler assez proche. Du coup, salut Véronique.
Salut Gaspard. Salut.
Amandine.
Comme je te le disais, l'idée c'est que on te montre quelques photos. Parce qu'il y a en fait une membre de notre collectif qui s'appelle Marion qui a pris des magnifiques photos tout le long de cette aventure depuis un mois. Donc on t'en passe 2, 3, 4 et t'en choisis une qui t'évoque quelque chose, qui te rappelle un moment. Et puis tu nous la décris d'abord peut-être pour commencer. Donc je te passe les photos.
exactement des jours où j'étais pas là.
Ah, zut alors.
Tu veux d'autres photos?
Ouais.
Ok, on va d'autres photos. Alors,
quelle photo Véronique va-t-elle choisir?
Quel suspense.
Donc j'ai pris les deux jeunes femmes qui s'étaient transformées en marionnettes de vieux. Et donc c'était les... Comment s'appelait-il les... Donc voilà, là, je décris la photo. Donc c'est... je ne sais pas comment s'appelle cette belle jeune femme qui tenait la marionnette.
C'était Astrid.
Voilà, Astrid, ouais. Qui représentait le monsieur. Donc elle tenait la marionnette. Et pendant ce moment qui était assez inoubliable, en fait, c'était le... Comment s'appelait-il?
Le gang des vieux en colère.
Michel Huisman.
Le gang des vieux en colère. Ouais. Qui, voilà, et je ne suis pas vieille, mais je suis plus proche d'eux que de vous, mais en même temps, c'est intergénérationnel. Et ce moment-là m'a particulièrement émue parce que je sentais la colère de ce monsieur de... Je ne sais pas quel âge, mais peu importe. Et cette... aberration de les jeunes dans une case, les 30 ans dans une case, les 40 ans dans une case, etc., etc. Alors que si on est tous ensemble, les jeunes, les moins jeunes, et c'est ce qu'il disait qui était très émouvant, que tous ensemble, on a des choses à s'offrir et à se partager et à s'apprendre, les jeunes aux vieux, les vieux aux jeunes. Et c'est une situation qui existe, voilà, tous les vieux... dans les mouroirs, tous les jeunes, cette magnifique femme tout à l'heure qui a fait un discours magnifique, donc les transgenres, les handicapés, les invalides, les personnes un peu spéciales, les artistes, voilà, tout est cloisonné. Et ce qui m'a touchée, c'est que bon, le public était ému aussi, mais c'est pas juste le dire, en fait. C'est réaliser qu'on a tous quelque chose à apporter à l'autre, quel âge qu'on ait, quelque couleur qu'on soit, quelque religion, jeune, vieux, voilà. On a tous à apprendre de l'autre, à l'écouter, à être bienveillant avec l'autre. Et voilà. Et donc j'écoutais ce message de colère de ce monsieur et ça m'a vraiment profondément touchée, comme beaucoup d'autres choses. Mais c'était très intense, voilà.
C'est vrai que c'était un beau moment.
Oui. Super, je rappelle juste qu'il s'agit donc d'un discours qui était porté par Michel Huisman, qui est le porte-parole du gang des vieux en colère et qui représente 14 000 personnes âgées en Belgique. Oui. Des petites vieux et petites vieilles, comme il le dit lui-même.
Et qui ont une niaque, mais d'enfer.
Ah oui,
c'est donc
vrai.
C'est à se dire, pas parce que je connais des vieux qui sont, qui sont peut-être vieux avant l'âge, et même des plus jeunes qui sont vieux avant l'âge, et voir... un monsieur comme ça qui est dans sa puissance, dans sa force et qui dit mais ça suffit, waouh, magnifique, vraiment c'est réconfortant, c'est encourageant, voilà. Donc j'ai envie de tenir ça aussi, voilà.
Génial. Véronique, vous êtes là tous les soirs?
Presque tous les soirs.
Vous êtes
tant que je peux.
Incroyable.
Ben je suis très touchée par ce mouvement. Je suis, enfin voilà, en amateur, je suis aussi dans le théâtre, dans la déclamation, donc empêchée, voilà. Et quand je suis venue la première fois ici à La Monnaie, j'ai été, quand je suis rentrée à la maison, j'en ai pleuré de toutes les larmes de mon corps, enfin, parce que je me suis dit, ah, je suis pas seule. Et j'ai vu des jeunes, des moins jeunes, porter cet amour, en fait, de... Putain, on est des êtres vivants, on est là sur Terre, on va vivre, on va pas juste payer des factures, se faire chier avec... excusez-moi mon vocabulaire, mais parfois c'est la colère qui l'emporte. Et que donc, voir des êtres vivants à l'écoute des autres et portés par cette... par ce mouvement d'injustice et de... Oui, ça m'a émue. Donc tant que je peux, j'essaye. Autrement, je suis dans mon potager où c'est un autre mouvement pour conserver un potager... mis en péril par une commune et par des... Voilà. Donc c'est soit vous, soit le potager. Bon, et parfois le boulot, allez, un petit peu quand même.
Excellent. En tout cas, on reste dans la culture. Ou la permaculture,
oui,
je ne sais pas.
Exactement, parce que la culture, c'est la biodiversité naturelle et la biodiversité humaine. Et les deux, c'est des écosystèmes dans un écosystème. Donc on est tous là et on a tous une raison d'être là. Et il n'y a personne qui doit dire, toi tu dégages. Oh ben non, toi t'es moche, toi t'es petit, toi t'es... voilà. Non, on est tous là, on a une raison d'être là. Il n'y a pas de raison de et tous les métiers, tous les avec diplôme, sans diplôme, on s'en fout. On est tous là pour une raison et pour vivre d'abord. Voilà. Donc et ça fait comme tu disais tout à l'heure le voilà le Covid. Alors oui, le Covid il est là, bien sûr, on ne le nie pas, il est là. Voilà, il y a c'est difficile, mais c'est le Covid est le révélateur et détonateur d'injustice et d'ineptie qui sont là depuis des décennies. Voilà. Mm-hmm. Donc ouais, donc je voilà, tant que je peux, je viendrai.
Trop bien. Merci.
Merci. En tout cas, c'est vraiment grâce aussi à tous ces gens qui sont présents tous les soirs pour nous que cette tribune existe. Donc merci beaucoup à Véronique et
merci à vous
tous ceux qu'on entend applaudir aussi, qui sont toujours présents là et qui écoutent patiemment.
Ouais. Merci à vous tous.
Merci Véronique. Et on peut maintenant demander à Charlotte de venir. Charlotte aussi, la même chose, elle vient depuis très longtemps.
Elle a un masque à paillettes incroyable.
Ah oui, elle est habillée toute en rose, elle est magnifique.
Désinfecter. Hello. Ton micro.
Tu peux enlever, oui, on a désinfecté.
Hello.
Hello.
Déjà, je voulais juste direct prendre l'initiative de vous dire bravo et merci parce que c'est trop super ce que vous faites. Alors bravo.
Bah, eh ben. Merci.
Du coup, je fais la même chose qu'avec Véronique. Je te passe quelques photos. Et puis tu t'en choisis une, tu la décris et tu nous dis ce qu'elle t'évoque.
Les ateliers ont commencé à prendre place à côté. Pendant que Charlotte choisit sa photo, j'en profite pour décrire un petit peu. Donc il y a des tables et puis il y a des gens qui commencent un peu à bricoler.
J'arrive pas à choisir.
Ah, tu veux dire que t'en veux d'autres ou...
Non, mais est-ce que je peux, peux en prendre un peu deux?
Tu peux en prendre un peu deux.
Un peu deux pour faire un peu un lien entre les deux.
D'accord.
Parce qu'en fait, j'arrive pas à choisir parce que j'en vois une avec une fille qui porte un tote bag féministe de merde et j'en vois une autre avec quelqu'un qui porte un pull de hashtag justice pour Mehdi. Et du coup, je trouve que les deux sont importants, en fait. Dans le sens que... Tu as parlé de ça tout à l'heure, de convergence des luttes. Ben, disons que le combat qui me toucherait le plus personnellement, de façon plus évidente, ce serait le féminisme. Mais je trouve que c'est hyper... En tant que personne blanche qui a hyper accès à l'espace public, d'une façon peut-être quand même contrainte, dans le sens que je suis une meuf dans l'espace public et tout, ben, je me sens un grand devoir d'être... en solidarité avec les gens qui se battent contre les violences policières. Du coup, je choisis les deux, je les mets ensemble.
D'accord. Est-ce que tu étais présente à l'une ou l'autre de ces journées, par hasard ?
Alors, j'étais pas là quand quelqu'un de la famille de Mehdi a parlé, mais j'étais là... Je sais pas si celle-là, elle est du jour où... J'étais là un jour où il y a la critique à la masse féministe qui est arrivée. C'était genre juste fantastique, c'était incroyable. Je crois que c'était le jour où vous deviez peut-être partir.
Ah oui, le jour où les déchaînés sont
arrivés. Où il y avait l'occupation et tout, il y a les déchaînés qui sont arrivés. Et puis c'était genre...
Ah oui, oui. Ouais, il y avait beaucoup de monde ce jour-là. C'était le dernier jour, dimanche, normalement, qui était la fin de notre occupation.
Ouais. Du coup, voilà.
Bah, on peut peut-être raconter... Dis-nous comment cette journée-là, comment tu l'as vécue.
Ben, je pense que... Je suis pas venue ici à l'occupation dès le début. Je pense que je me rappelle plus quand je suis venue la première fois, mais en fait on peut proposer à mon coloc de venir et je crois qu'ensuite j'ai vu un appel sur Facebook comme quoi vous alliez devoir partir et du coup je suis venue spécifiquement ce jour-là et du coup ben il y avait pas mal de monde, je pense il y avait 500 personnes un truc comme ça. Enfin, genre la place était pleine et tout d'un coup ben il y a une énorme vague de meufs et personnes et plein de gens différents qui sont arrivés à vélo et qui ont commencé à faire le tour du bâtiment et enfin il y a eu une énergie super forte et puis je trouve que les critiques à la masse et le vélo c'est un bon instrument en ce moment pour pour prendre l'espace et pour prendre la ville.
C'est assez puissant, hein. C'est toutes des personnes qui sont à vélo et donc qui se déplacent en dizaines et dizaines tous ensemble. Et ça fait comme des nuées d'oiseaux parce qu'elles se déplacent dans la ville et puis elles se posent quelque part et puis elles restent un peu et puis elles repartent. C'est... Ouais.
Et comme il n'y a pas vraiment de légifération sur le fait d'être à vélo à plusieurs, donc il y a cette espèce de flou, je pense, où en fait, et comme elles sont très mobiles aussi, en fait, ça passe, quoi. Du coup, on les voit passer, c'est très drôle et incroyable à voir. Et puis, en fait, il y a un côté volatile comme ça, du coup, on ne peut pas vraiment les saisir aussi, quoi.
Mais justement, par rapport à ça, j'ai une anecdote parce que je viens de Suisse et il y a eu une grève féministe massive en 2019. Un truc de malade où il y avait genre de... Enfin, moi, je viens d'une ville où il y a environ 150 000 habitants. Comme ça, il y avait 70 000 personnes dans la rue. C'était genre juste la folie totale. Et la grève, elle a voulu être réorganisée l'année passée pour 2020. Et ça n'a pas été possible à cause du Covid. Mais en fait, justement, il y a eu une critical mass un peu... qui était... Enfin, je crois que c'est toujours les derniers samedis du mois. Donc, c'est tombé en même temps. Et en fait, du coup, on a genre bloqué l'autoroute et tout parce que les vélos ont protégé les gens qui voulaient quand même faire la manif. Et puis, on a quand même pu faire la grève en mode Covid. Et c'était genre fantastique, du coup. Moi, je fais pas de vélo, mais genre, je soutiens trop les critiques à masse.
Très bien, bah, merci beaucoup, Charlotte.
Et reviens tous les jours.
Oui, c'est clair.
Ouais.
C'est clair.
Chouette. Merci, Charlotte.
Merci beaucoup.
Et du coup, maintenant, il y a Florentin qui va venir... qui va venir parler. Florentin, c'est quelqu'un qu'on a rencontré au Théâtre National, qui faisait plutôt partie de l'équipe du Théâtre National au début, qui s'est joint à nous en cours de route. Et en fait, aujourd'hui, il vient pour parler d'une situation qui s'est produite hier, lors d'une manifestation de l'USPR, du coup, l'Union pour la régularisation des sans-papiers. Il va plus nous raconter, il a écrit un témoignage, il vient nous le lire, du coup, vas-y.
Donc oui, je viens par rapport à l'arrestation assez massive qu'il y a eu hier. Et je vais juste vous lire un petit témoignage que j'ai écrit. Rien de nouveau à l'ombre du commissariat. L'arrestation d'hier était inutile. Le blocage de la petite ceinture et des ambulances n'est pas le fait des militants pour la régularisation, mais bien celui des dizaines de fourgons de police déployés pour les priver de liberté. Le cortège souhaitait simplement rejoindre l'occupation de l'ULB. À peine le cortège parti, le dispositif policier a bloqué tous les passages et créé une nasse, et par là même ce fameux embouteillage tant décrié. Ensuite, de la nasse au menottage, du menottage à la fourgonnette, de la fourgonnette au garage du commissariat. Après de longues heures, nous avons été démenottés et placés au cachot. Maintenant, qui sont ces humains sous les uniformes ? Des hommes et des femmes, blancs, basanés, noirs, des hommes et des femmes qui, pour la plupart, font leur travail dans le silence. Mais il y a les autres, les bruyants, les créateurs de violence. Ils, je dis ils car ce sont surtout des hommes, ils sont une dizaine de policiers sur la trentaine avec qui nous avons été en contact. Ils sont blancs, grands, chauves pour la plupart, et affichent un racisme ouvert, sans honte aucune. Et beaucoup rigolent quand le plus grand d'entre eux parle de chambre à gaz pour se débarrasser des travailleurs qui sont menottés à même le sol. Dans ce garage, visiblement sans caméra, ceux-là guettent le moindre mouvement pour hurler un « ferme ta gueule ». Pour celui qui refuse de se taire, la punition est immédiate. L'homme en uniforme vient coller son front sur l'homme menotté, front contre front. Puis il a un geste très professionnel. Oui, l'équipement réglementaire d'un policier contient une matraque, une arme de poing, un talkie-walkie, etc. Les deux premiers sont des armes, c'est assez évident. Mais le troisième ? Comment un talkie-walkie peut devenir une arme ? Vous voyez, un talkie-walkie, ça a une petite antenne en plastique dur. Et si vous enfoncez cette pointe en plastique dans la gorge, juste sous la pomme d'Adam, ça fait une arme très efficace. Oui, c'est un métier, policier, et il y a un savoir-faire. Alors, il enfonce la pointe dans la gorge et il hurle sur l'homme menotté « You come on the work picken, vous venez prendre notre travail ». L'homme menotté, il lui crie « Juli Eberchen, respect vor de mensen vor Buitenland. Respect, vous n'avez pas de respect pour les étrangers, ayez du respect pour moi. » Ça dure une minute, l'homme menotté ne lâche pas sa dignité, tout le monde hurle, aucun policier, aucune policière n'intervient. Et comme l'homme menotté parle flamand, l'homme en uniforme viendra lui dire plus tard « Mais je ne suis pas raciste, moi, ferme ta gueule. » Bon, dans le genre, il y a plein de micro-événements sur cette journée. Il y a les policiers qui sifflent un hymne nazi, ceux qui disent « ils sont dégueulasses », les petites humiliations. Rien de nouveau à l'ombre du commissariat. Visiblement, rien d'extraordinaire. Sans doute le nombre d'interpellés, peut-être la présence de soutiens blancs. En tout cas, la violence a l'air minime pour les autres fonctionnaires, les gardiens de la paix, paraît-il. Alors, il y a ceux-là, les grands chauves qui restent entre eux, miment des chibres immenses en fumant une clope. Oui, c'est bien une histoire de bite, une histoire de vestiaire, où on rigole aux blagues du plus grand des chauves, sans doute, parce que c'est le plus grand, et qu'on est trop lâche pour se battre avec son maître au 95. C'est un peu ridicule. Ça ne serait que de la bêtise et de la vulgarité s'il n'y avait pas les références au nazisme, s'il n'y avait pas les armes à leur ceinture, et s'ils ne représentaient pas la loi, le roi, la liberté. Et sans tout ça, ça serait juste drôle, un peu risible. Mais avec tout ça, c'est terrifiant. Mais rien de nouveau à l'ombre du commissariat, non. Rien de nouveau dans le regard de cette policière qui a fait de son mieux pour nous traiter avec respect. Cette policière qui a simplement pris le temps de parler aux hommes menottés. Rien de nouveau dans les larmes qui voulaient monter dans ses yeux. Rien de nouveau dans son silence impuissant. Elle ne peut rien dire. Elle se tient éloignée des grands chauves qui jouent avec leurs grands tiches invisibles. C'est pour elle aujourd'hui que j'ai de la pitié. C'est pour ces policiers qui font leur travail en silence et pour qui la violence et le racisme font partie du décor. C'est comme le gris du béton, ça ne s'enlève pas, c'est comme ça. Pour ces policiers et policières qui se sont engagés pour faire le bien, protéger la population et qui sont prisonniers de ceux qui sont là pour faire la chasse à ceux qui ne leur ressemblent pas, aujourd'hui je m'inquiète. Car si elle ouvre sa gueule, elle sera harcelée, relayée dans un bureau au fin fond d'Otsiplou, on lui fera faire des tâches vides de sens pour lui faire comprendre, pour lui faire passer l'envie de justice comme on a fait à Éric Lassence. Peut-être qu'elle ravalera sa fierté, ses larmes et son humanité. Peut-être qu'elle quittera le commissariat en posant sa démission, ou pire. Mais bon, quand tout ça a été fini, elle nous a ramenés à l'église du Béguinage qui est juste à côté d'ici, et tous les hommes qui étaient maintenant démenottés dans la fourgonnette l'ont applaudi et ont chanté « Merci policière gentille, merci policière gentille, merci policière gentille ». Comme quoi, le respect, ça se gagne et ça se mérite. J'espère que ça lui mettra du baume au cœur et qu'elle continuera son travail comme ça. Et à celui qui dit « Vous volez notre travail », il oublie que ce sont les lobbies des multinationales et la sous-traitance qui veulent maintenir un coût du travail proche de rien pour un profit maximal. Il oublie que ça s'appelle du dumping social et que c'est ça qui a désindustrialisé le pays par l'extérieur et détruit les salaires de l'intérieur. Il oublie que c'est une volonté politique qui, au nom du profit, ferme les yeux. Il oublie que son ennemi ce jour-là ne portait pas de menottes, mais une cravate, et il était à l'abri dans un immeuble. Il oublie que les seuls Belges qui rêvent de payer des taxes et de cotiser normalement sont des sans-papiers. Il oublie que s'il ne devait pas courir après ses travailleurs et les petits dealers, il pourrait faire son travail. Il oublie que son travail n'est pas nécessairement synonyme de violence. Il oublie qu'il n'est pas obligé de rire quand on parle de chambre à gaz. Il oublie... Alors nous lui rappelons sans violence, sans animosité, qu'il doit garder la paix et pas provoquer la violence. Nous lui rappelons sans violence et sans animosité qu'il est lui aussi un fils du peuple et pas un serviteur des puissants. Nous lui rappelons sans violence et sans animosité qu'il est un homme et qu'il est donc de son devoir d'être juste, intelligent et digne. Nous lui rappelons sans violence et sans animosité que s'il dénonce ceux qui se rendent coupables de vulgarité, de bêtises et de violence et d'injustice, les citoyens de ce pays seront là pour le soutenir.
Bravo.
Merci beaucoup Florentin, merci pour ce témoignage. Donc Florentin a vécu la manifestation et les arrestations d'hier.
Du coup, il nous reste une minute de live, donc on va en profiter pour vraiment juste dire une petite annonce, c'est que ce qui va se passer le 1er mai, parce que le 1er mai est une journée de lutte et de convergence des luttes, et nous, on voulait faire un gros événement aussi pour participer de ce mouvement. Donc d'ici à jeudi, il y a des tribunes qui continuent tous les jours à 17h, venez nous rejoindre. Et le 1er mai, à 16h cette fois-ci, sera la tribune sur la monnaie, il y aura des concerts et il y aura aussi une mise en scène qui
va nous permettre en fait de célébrer la nouvelle période qui commence, c'est-à-dire qu'en fait on va faire ce qui nous convient et ce qui est le plus sensé.
Du coup on n'est plus en live et donc la fin c'est perdu. Mais merci à vous d'être restés.
Merci beaucoup.
Parce que. Et donc maintenant, on va écouter les crieurs et crieuses de la boîte à cris pour finir. Vous pouvez les crier vers le public.